Alors, j'aurais aimé commencer donc ces trois séances sur le mouvement d'abord par un retour, si je puis dire, de vous. Quand j'ai posé cette question à la fin de la projection hier, de savoir si quelqu'un avait quelque chose à dire, une personne m'a répondu qu'elle était encore sur le coup de l'emmagasinement du film et que effectivement c'était un peu difficile d'intervenir comme ça immédiatement après. Je pense qu'une bonne nuit de repos vous aura permis de mettre de la clarté dans vos idées. Et j'aurais voulu tout de même, pour démarrer un peu ce concept de partition sonore, avoir quelques réactions de chacun d'entre vous, quelques-uns d'entre vous en tous les cas, sur le film en général et sur cette conception de film donc, que j'ai indiqué comme dys-narratif, c'est-à-dire qui est beaucoup plus un objet formel finalement qu'une histoire qu'on raconte, encore qu'on pourra discuter de ça aussi, et d'une part, et d'autre part sur ce concept de partition sonore qui donne de la musique de film, entre guillemets, telle qu'on a l'habitude de l'entendre, effectivement une vision assez différente. Alors je voudrais savoir si quelqu'un voudrait poser une question à ce sujet. Merci. Oui. Bon, alors c'est effectivement un point de départ déjà intéressant. Tout film a une histoire différente. J'en ai fait sept avec Franck Grillet. Nous avons travaillé de façon très différente pour chacun des films. Si je parle plus volontiers de celui-là, c'est que il me semble que le travail effectué avec l'auteur a été assez exemplaire dans le sens où nous y avons réfléchi beaucoup avant le tournage, presque 6 mois avant le tournage, sur quelque chose qui n'était pas un scénario détaillé avec une colonne de droite, une colonne de gauche où tout est indiqué, mais plutôt à ce moment-là, ce qui n'était qu'un projet formel, c'est-à-dire finalement ce qu'on pourrait appeler, puisque je m'adresse principalement à des musiciens ici, ce qu'on pourrait appeler un thème et variation, quoi. Donc c'était ça le principe qui était adopté. Et donc on a essayé de voir justement comment on pourrait établir de façon assez rigoureuse ce système de thématique sonore qui a été, je crois, pour la première fois utilisé de cette manière-là à cette époque-là. Puis il y a eu, comme je vous l'ai indiqué hier, ce court moment où je suis allé sur le tournage pendant qu'on tournait le film, non pas pour enregistrer le son du film, puisque Rob Grillet tourne toujours en son témoin, c'est-à-dire qu'avec une caméra qui fait du bruit et donc tous les textes sont post-synchronisés par la suite. Mais bien plutôt pour essayer de capter ce que j'appellerais le donné sonore du film. Dans tout film, il y a quelque chose, oserais-je dire, d'ineffable, qui est des sons comme ça qu'on entend autour, qui n'ont peut-être pas de rapport direct avec le film, mais qui sont un matériau, finalement, qui peut être extrêmement intéressant. Pense par exemple, puisque vous avez tous vu le film, à la fin il y a ces deux scènes dans une espèce de grenier, de bric-à-brac de ce fameux château, dans lequel se balade premièrement la femme de Jean Robin, puis après Jean-Louis Trintignant qui se bagarre contre un fantôme imaginaire. Bon. Et vous avez vu qu'il y a vraiment des tas d'objets hétéroclites. Et moi, je me suis promené dans cet endroit. Et il y avait une vieille épinette, là, complètement démolie. Et il s'est trouvé que, posant la main dessus, ça a rendu un son tout à fait étrange, dont je me suis servi finalement comme notation, comme thématique de ce lieu du film. C'est un exemple entre beaucoup d'autres. Mais enfin, pour vous indiquer qu'il n'y a pas simplement dans ce travail, un travail, je dirais, de cabinet, c'est-à-dire de studio, finalement, où on prend des sons, on les assemble, etc. Mais il y a toujours quelque chose de singulier par rapport à chaque film et qui est lié au décor du film et au, je dirais presque même à l'ambiance du tournage du film. Alors, cette deuxième intervention-là, donc, a lieu dans ce film. Et puis, surtout, la troisième partie du travail, la plus importante, qui a été la composition réelle de toute la bande sonore. Alors, je dirais deux mots de cela, parce que je pense que c'est important pour la suite. Le film m'a été livré, si je puis dire, entièrement monté, l'image entièrement montée. Je signalerai au passage que c'est un film dans lequel il y a énormément de plans par rapport aux films habituels. Il y en a, M. Marie nous dirait ça, 860, je crois, 800 ? Presque 900, ce qui est énorme pour un film d'à peine une heure et demie. Donc, le film monté, à l'exception toutefois, monté dans ses longueurs, exact, n'est-ce pas, à l'exception toutefois d'une scène que je considère dans l'ensemble de la partition sonore un peu comme une rhapsodie, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus délié comme forme, enfin ce que c'est qu'une rhapsodie dans le sens classique du mot, et qui est cette scène dite de Maria Puni, cette espèce de scène avec les trois filles dans un grenier, cette fausse condamnation, ce faux supplice, enfin, qui se trouve à peu près au milieu du film. Et où là, l'ordre des plans avait été décidé par le réalisateur, mais avec la faculté pour moi de les réduire ou voire de les allonger. Alors, ça pose cela un premier point qui est que un son a une sorte de temporalité intérieure et qu'il est effectivement très important de pouvoir parfois agir sur l'image parce que le son que l'on veut associer à cette image a une nécessité de temps supérieure, par exemple, ou inférieure à la durée de l'image. Il y a une sorte de tempo dans un son qui nécessite une certaine durée, qui n'est pas forcément longue d'ailleurs, qui peut être aussi très courte, mais qui est finalement incontournable. Et je parle des sons naturellement non musicaux, n'est-ce pas, puisque le son musical, lui, peut être calibré comme on le souhaite. Mais pour les sons non musicaux, il y a cette petite contrainte, mais qui est génératrice elle-même de choses intéressantes, de liaison avec l'image. Et donc cette séquence qui est d'ailleurs la séquence pratiquement centrale du film, j'avais possibilité de finalement rallonger ou raccourcir les images en fonction des sons que je mettais. Mais la chose peut-être la plus intéressante dans cette partie-là du travail a été que pour des raisons pratiques, de voyage, je ne sais pas quoi, je n'ai quasiment pas vu le réalisateur pendant que je travaillais. Et il a pris connaissance finalement de mon travail que peut-être 15 jours avant le mixage final. Et donc j'ai travaillé avec une très grande liberté sous surveillance, si vous voulez, mais sur surveillance 6 mois avant, c'est-à-dire que je savais dans quelle ligne j'allais travailler. Mais j'ai pu, grâce à cette relative solitude, finalement, comment dirais-je, ajouter un sens supplémentaire au discours du film, notion sur laquelle Rob Grier était d'accord, puisque son idée était que ce film, que le sens du film prolifère dans le maximum de dimensions possibles, par l'introduction de ce qu'on appelle habituellement son off dans le jargon cinématographique, et qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de sens dans ce film, mais continuons à l'appeler comme ça pour la commodité de l'exposé, disons des sons qui ne sont pas synchrones et représentant l'image, c'est-à-dire des sons qui peuvent finalement être entendus en dehors du cadre cinématographique. Nous serons amenés d'ailleurs à discuter de cette notion qui, comme je vous le dis, n'a pas beaucoup de sens dans ce type de travail. Par exemple, lorsque des sons sont introduits avant des mouvements, je pense par exemple à une scène comme celle qui précède la scène du puits. Il y a un puits dans la cour du château, on va voir le vieux père, l'intendant, etc. Et il y a une scène avant dans laquelle Trintignant raconte une version aux trois filles qu'il vient de rencontrer, aux trois femmes qu'il vient de rencontrer dans le château. Quand il pose des interrogations, qu'il pose une question, par exemple, c'est un bruit qui répond. On n'a pas la réponse et c'est le bruit qui répond, en général un bruit de chaîne, un bruit de seau, un bruit métallique, ce qui évidemment introduit une sorte d'espace assez bizarre, puisque les sons qui sont introduits ainsi comme réponse à des questions sont ceux-là même que l'on va découvrir dans la scène immédiatement suivante, qui est la scène du puits où la servante puise de l'eau, et vous connaissez la suite. Bien. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la contraction de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on entend avant des bruits qui vont être motivés après, et qui ne peuvent pas être des sons off, car ils commencent à être entendus alors que la servante est présente à l'image. On la voit là, donc ce n'est pas elle qui peut faire ce bruit. Puis elle descend, il y a donc là un deuxième stade où ça pourrait être les bruits qu'elle fait, mais on n'en sait encore trop rien. Et un troisième stade, c'est quand on la voit faire les bruits. Je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet. Comme je vous l'ai dit hier, le travail que j'avais fait sur votre sec et l'intérêt que j'ai toujours énorme, j'ai toujours porté à cette œuvre, m'ont beaucoup, beaucoup influencé dans le traitement justement du temps dans cette partition. Et je ferai référence pour donner une analogie à ce télescopage de temps, de bruit, à ce qui se passe entre la deuxième et la troisième scène du premier acte de Wozzeck. À la fin de c'est la scène d'Andrés et Wozzeck dans les marais en train de couper des joncs, des bâtons. À la fin de cette scène, il y a des roulements de timbales, une musique très, très, très grave, très, très puissante. Et Wozzeck qui dit, il y a là le tonnerre qui roule sur le sol, etc. Bon, cependant que le soleil est rouge, enfin, je ne sais plus le texte exactement, enfin, c'est à peu près ça. Et on commence à entendre très très loin la musique militaire sous la grande descente des cordes. Bon. Et en fait, les deux scènes sont simultanées. En fait, elles ne peuvent pas être représentées ensemble, naturellement, il faut parfois dans les deux scènes à la fois, en tous les cas, ce n'était pas la conception qu'on avait à cette époque-là. On entend ce qui va se passer dans la scène suivante, alors que la scène précédente n'est pas terminée. C'est un procédé que Berg a beaucoup employé, y compris dans Loulou d'ailleurs, c'est une espèce de contraction comme ça de temps, et c'est un petit peu de ça dont je me suis inspiré. Dans ce traitement. Alors, donc, pour terminer sur votre question, monsieur, c'est là ce qui était. Au fond, Rob Grillet, quand il a vu mon travail, a vu pratiquement un autre, pas un autre film que celui qu'il avait fait, mais a découvert et a eu la gentillesse de l'accepter, quelque chose qui dépassait de beaucoup, effectivement, ce qui avait été prévu au départ du fait de ce sens supplémentaire apporté. Parce que le système de balises, de thématiques, tout ça, nous en étions tout à fait d'accord, mais le fait d'introduire un sens nouveau et non prévu par l'auteur pouvait évidemment, selon l'auteur et sa bonne volonté, créer des problèmes. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Bon, un dernier point pour, sur la fabrication du film. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a, contrairement à la composition musicale, il n'y a pas d'écriture avant. Dans ce type de travail, c'est-à-dire que, mais il y a une écriture après, et c'est pour ça que, ne sachant pas à l'époque que Varèse avait inventé ce terme, que le mot partition pour moi représentait quelque chose, c'est-à-dire que rapidement, pour ceux qui ne savent pas, vous imaginez bien que la bande sonore d'un film, quel qu'il soit, de quelque type qu'il soit, est le mélange d'un nombre assez important, qui peut être 8, 9, 10, 12, 16, 20 bandes sonores différentes qui sont synchronisées avec l'image et qui, au moment du mélange en auditorium, sont balancées les unes avec les autres pour arriver au résultat final, qui est, lui, une seule piste sonore sur le bord du film. Donc, comme les instruments dont nous disposons, qui sont à l'époque c'était des tables de montage sur lesquelles il y avait l'image sur un canal, et puis moi j'avais la chance d'avoir une machine où il y avait trois sons, donc je pouvais entendre trois bandes sonores en même temps que je voyais l'image et décaler ces bandes sonores par rapport à l'image. Bon. Ce film-là doit comprendre, enfin, je n'ai plus ça en tête, mais enfin au moins une dizaine ou une douzaine de bandes donc différentes qu'on peut un peu considérer comme des parties instrumentales différentes qui se superposent. Alors, l'assemblage de ces sons, naturellement, se fait, si je puis dire, à l'oreille, c'est-à-dire, mais on peut rester facilement une heure à savoir où on va mettre le premier ou le second, le troisième, hein. Mais finalement, quand on a obtenu un résultat satisfaisant, on est bien obligé de consigner par écrit ce qu'on a fait, c'est-à-dire sur quelque chose qui ressemblerait d'ailleurs à une partition musicale, où les barres de mesure représenteraient des secondes, des dizaines de secondes, etc., placer ces instruments de façon à ce que quand on va réécouter trois autres bandes, qu'on puisse avoir en mémoire, lire en quelque sorte sur la partition les sons qu'on a déjà placés et qu'on ne peut pas entendre si on en a placé trois autres. Et je fais référence là à un texte assez ancien de Pierre Boulez sur l'œil et l'oreille, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, dans lequel justement il met l'accent sur l'importance de la vérification par l'œil d'une partition. Hein. Et c'est un petit peu le même phénomène là, en particulier en ce qui concerne ce que j'appellerais les densités. Hein. Vous avez pu remarquer que dans ce film, il y a un gros effort de fait sur la dynamique générale du film, c'est-à-dire il y a une volonté de faire alterner des moments assez denses avec des moments au contraire beaucoup plus silencieux, voire même peut-être absents du point de vue sonore. Bon, toute cette répartition, si je puis dire, à moins d'avoir une mémoire considérable, ne peut être vraiment rendue efficace que par un contrôle visuel, et donc ça donne lieu finalement à une partition d'une centaine de pages sur laquelle chaque minute du film est décrite de ce point de vue. Voilà, Monsieur, je crois que je vous ai répondu assez complètement. Nous aurons de toute façon l'occasion de voir plus en détail les problèmes de genre. Y aurait-il une autre question? Oui, allez-y. Non, vous avez une perception parfaite, je vous en félicite. c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un système, je dirais plutôt motivique que thématique, très inspiré aussi des systèmes bergiens, qui peuvent effectivement être, je prends par exemple, comme exemple, le pivert, qui intervient assez fréquemment dans le film et qui est effectivement un motif qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher du vibraphone dans Loulou. Chaque fois qu'il se passe un événement dans Loulou, une sonnette ou quelque chose comme ça, il y a ce vibraphone qui fait la bémol du bémol, je crois, comme ça, bon, et chaque fois qui fait de signal comme ça, bon. Le pivert a cette même fonction et finalement vous avez raison, il n'indique pas ni un personnage ni un personnage particulier, mais il indique en l'occurrence que on va encore écouter une version de l'histoire de Trintignant. Bon, alors naturellement ce n'est pas systématique jusqu'à devenir ennuyeux, c'est-à-dire que par exemple, de temps en temps, le pivert est remplacé par un autre bruit qui peut être un mouvement d'eau ou qu'on a déjà entendu. Bon, mais il y a toujours cette notion de signal dès que Jean-Robin va raconter une histoire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de calembours dans ce film. Ça, c'est encore l'héritage bergien de calembours sonores où, à un moment donné, vous savez, deux ou trois fois dans le film, il va commencer une histoire, puis il fait etc. Hein, et à ce moment-là, le bruit du pivert se trouve ramassé à simplement, parce qu'on coupe le sifflet. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a un certain nombre de motifs sonores, en particulier plutôt du non musical que du musical, qui sont liés effectivement à des situations, à des comportements, beaucoup plus qu'à des personnages. Il n'y a pas finalement de thème de personnages. Monsieur ? Absolument.
Donc c'est ça autre chose, parce que la tension était toujours dans un registre assez aigu, même quand ça retombe de très peu pour une durée assez restreinte. Alors je me demande si ça ne fait pas une régression à la langue aussi de cette notion. On a plus de détente justement pour remarquer qu'il y a encore des tensions à la fin, ça devient la tension une forme d'accoutumance, sinon c'est l'ampleur en quelque sorte.
Oui. Est-ce que je vois très bien ce que vous voulez dire. Ça affecte ce que vous venez de dire, ce que j'appellerais la notion de pouvoir en matière de perception cinématographique. C'est-à-dire que on ne peut pas à la fois, dans le même temps, percevoir une complexité à l'image, au récit et au son. Ou si on le peut, c'est pour une fraction infime de temps. Bon. Et donc je pense que, et en particulier dans ce film, Et vous avez raison, quand je parle de silence sonore, à ce moment-là, c'est l'image qui est très complexe. Bon. Et que peut-être, vous avez raison, finalement, ça fait que le film est sous tension continuelle, hein, c'est possible. Bon. Si je prends comme exemple, par exemple, au début du film, lorsque les filles jouent à Colamagar avec le bandeau, je sais pas, bon, où il y a toute cette série de vieux tableaux, de portraits, de photographies, etc. Et un jeu entre le visage réel des personnages et ces photos, ces vieux tableaux, etc. Le montage est d'une très très grande densité, là. Puisqu'à un moment donné, on ne sait plus du tout si c'est un visage, si c'est un tableau, si c'est un dessin, si, etc. Bon. Et il n'y a pas de son, là, effectivement. Parce que s'il y avait du son, alors là, c'était complètement occulté. Bon. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de texte. S'il y a un texte un peu dense ou qui fait plus ou moins avancer le récit, bon, à ce moment-là, l'image se calme et de toute façon, la complexité du son s'organise mieux avec le texte qu'avec l'image. Dès que l'image devient complexe, le son doit pas baisser en niveau, hein, mais baisser en complexité. Ça, je crois que cette notion de pouvoir... En matière audiovisuelle, on ne peut pas y échapper, en tous les cas, si on considère l'humanité d'aujourd'hui. Hein. Peut-être que dans 100 ans ou 200 ans, l'homme aura évolué et pourra à la fois percevoir des images, des sons, des textes beaucoup plus facilement que maintenant. Mais je crois que pour le moment, c'est tout à fait exclu et je crois que la bonne perception de ce film nécessite déjà, malgré les précautions prises sur ces problèmes de pouvoir, énormément de concentration et de fatigue, si je puis dire. Hein. Mais effectivement, vous avez raison. Dans cette table-là, oui. De ce séminaire. Oui. Alors, je pense que j'ai choisi ce film parce que il est effectivement. Excusez-moi, ça a l'air très immodeste de dire ça, mais pour moi, exemplaire de ce type de travail. Hein, du fait que j'étais dans les conditions optima pour le faire, en toute liberté, très mal payé, mais ça c'est toujours quand on fait des choses intéressantes, très mal payé, et on est bien payé quand on fait des choses qui vous embêtent. Et donc, et en plus de ça, j'étais professeur à l'école de cinéma de Bruxelles, l'INSAS à l'époque, et j'avais une sorte de retombée, si vous voulez, théorique, puisque j'expliquais, je faisais des cours à mes étudiants en même temps, et je leur expliquais ce que je faisais, ce qui fait que j'avais une espèce d'aller-retour entre la réflexion et le travail, et la réflexion sur le travail. Hein, c'est un point qui m'intéressait beaucoup. Par ailleurs, la notion de partition sonore ou du travail que je fais n'est applicable que à des films qui ont déjà un certain ordre musical de par leur conception. Hein. Il est évident que, quel que soit ce qu'on puisse penser de ce film, c'est pas du tout minorisant, mais je vois pas ce que je pourrais faire dans Cyrano de Bergerac, par exemple. Hein, ce type de travail n'aurait pas lieu d'être. Et dans, finalement, d'ailleurs, pour mon malheur, ce type de travail est redevable d'un nombre de films très limité. Bon, les films de Rodriguez, c'est très bien, on pourrait imaginer les films de Duras, on pourrait imaginer aussi les films de Godard, mais comme nous allons le voir à la fin de la semaine, mais Godard fait tout seul et donc de personne, donc ce sera le grand malheur de ma vie de jamais avoir pu travailler avec lui. Mais donc, c'est effectivement un film exemplaire pour ce type de travail. Hein? Et c'est pour ça que, bien que ce soit un film maintenant très ancien dans mon travail aujourd'hui, je le prends parce qu'il est tout à fait rigoureux, si vous voulez, comme application de cette pensée-là. Hein? Et sans concession, et d'ailleurs tellement sans concession que le film a été un flop. Total, quand il est sorti, il a fait, je crois, 17 000 entrées ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire sur le côté esthétique ou politique. Oui, je comprends. Oui, non, je crois qu'on peut pas du tout considérer ce film comme un film politique, enfin, je veux dire, ou racontant, ou rendant compte, plus exactement, même de la résistance, tout ça, en Tchécoslovaquie. Je crois que, simplement, vous savez, ce type de... Il faut voir que les films se font beaucoup à partir de coproductions, c'est-à-dire surtout ce type de films qui trouvent très, très difficilement des financements. Il s'est trouvé que la Tchécoslovaquie voulait coproduire un film avec la France et que donc ce sujet-là a été choisi, hein, mais effectivement, ça n'a aucune valeur de ce point de vue-là. Oui? Bien, alors je vous ferai une réponse qui n'est valable que pour moi. Hein. Il ne faudrait pas en tirer des conclusions générales. La première chose, comme depuis début de ma vie même, j'ai toujours refusé de m'investir dans une création qui ne me convienne pas. Bon, j'ai d'autres. Possibilité. Je préfère faire un montage sonore pour un film publicitaire qui me rapportera de quoi vivre 2 mois plutôt que d'écrire une partition pour un film dans un style imposé ou comme ça arrive très très souvent, faut bien le dire. Bon. Ce qui fait que donc cette aventure ne m'est jamais arrivée, mais de ce fait, je n'ai pas fait beaucoup de films, évidemment. Alors, j'ai travaillé avec le premier film important que j'ai fait était avec Haroun Taviev, c'était un film sur les volcans, forcément, qui s'appelait Volcans interdits, et où là j'ai eu une très grande liberté, vraiment, Taviev me faisait confiance et leur résultat était estimé satisfaisant. Mais pour reprendre une époque alors, parce qu'il y avait d'autres films de Rondry avant celui-là, une époque à peu près correspondant à L'homme qui ment, il s'est trouvé que j'ai fait le premier de trois films importants d'animaux. Ce film s'appelait Le territoire des autres. Là, ça a été une expérience tout à fait particulière et passionnante qui s'est malheureusement pas reproduite, à savoir que les opérateurs, les deux garçons qui avaient filmé les images, d'une façon tout à fait exceptionnelle d'ailleurs, n'avaient aucune idée du type du film que cela pouvait donner. Et je leur ai proposé, étant par ailleurs réalisateur aussi, de me confier tout leur rush, enfin tout leur matériel image, que c'était un film dont l'image était tellement forte. Qu'à mon avis, il était exclu de faire un documentaire avec un texte pour expliquer ce que c'était, etc. Et qu'il fallait, la seule façon de faire ce film était de lui donner une forme musicale. Et que donc je me proposais de réfléchir là-dessus et de faire ça. Bon. Et finalement, bon, ils étaient un petit peu réticents, et puis la chose est faite ainsi, j'ai regardé ces images. Énormément, énormément, sauf que c'était en 68, tout était fermé, rien ne marchait, donc tout le loisir de regarder ces images. Et finalement, une structure est née il y avait énormément d'images, il y avait 45 000 mètres, c'est-à-dire près de 25 heures de projection. Hein. Bien, c'était pas quelques images, hein, c'était bon. Et finalement, ces images, j'ai proposé une sorte d'organisation qui était tout à fait de caractère symphonique, avec une ouverture, un premier mouvement allegro, un second mouvement andante, etc. Bon, et des formes vives, des formes, enfin, vraiment organisées comme ça. Bon. Alors, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que, étant co-réalisateur finalement du film, il y avait un travail continu entre le montage de l'image et la fabrication du matériel sonore qui allait avec. Cette circonstance, malheureusement, ne s'est pas reproduite. Ça a été un travail très très long parce que on montait l'image, je travaillais sur le son, travaillant sur le son, je voulais qu'on refasse l'image d'une certaine manière, et ainsi de suite. Hein. Bon, jusqu'à ce que tout d'un coup, un peu comme un fléau de balance, l'équilibre se fasse et qu'on ait quelque chose de satisfaisant. Bon, ça c'est unique, donc, et je crois irremplaçable et malheureusement non duplicable. De Jean Rouche? Non. Non, non, c'est pas Jean Rouche. Non, j'ai travaillé avec Jean Rouche il y a très très longtemps, alors comme ingénieur du son. Non, non, c'est pas avec Rouche. Alors, deuxième film, c'était La griffe et la dent que vous allez voir. Ah ben c'est ça. C'est La griffe et la dent que vous allez voir cette semaine. Où là, effectivement, avec les mêmes deux opérateurs, mais enfin qui avaient tout de même pris conscience des problèmes de réalisation et qui, là, je ne suis pas du tout intervenu. Dans la réalisation, j'avais à effectivement suivre un programme sur lequel on s'était mis d'accord quant aux emplacements. Mais en fait, il n'y avait pas d'emplacement, parce que comme il n'y avait pas de texte non plus dans ce film-là, il y avait 1 heure et demie de son à organiser finalement. Et c'était très important d'organiser ce son, parce que 1 heure et demie de film sans texte, sans explication, sans quoi que ce soit, pour arriver à créer un univers poétique suffisamment fort pour qu'on aille jusqu'au bout, c'était pas évident. Bon, donc, Là, ça s'est très bien passé. Et c'est un film, d'ailleurs, dont je suis beaucoup plus content que le premier sur le plan du résultat sonore, parce que n'ayant à m'occuper que de ça, j'ai fait avancer un certain nombre de problèmes que je m'étais posés dans le premier. Quant à la fin de la question de monsieur, elle est tout à fait d'actualité, car faisant la partition sonore du troisième film de ces deux personnes, un film qui s'appelle Le Peuple Singe, et j'ai travaillé, qu'on aurait dû d'ailleurs peut-être voir ici, mais je crois qu'il ne sera pas prêt, enfin que la copie magnétique ne sera pas prête. Effectivement, j'ai travaillé 6 mois, et comme je travaille maintenant avec des systèmes beaucoup plus rapides du point de vue du temps, des multipistes, des choses comme ça, enfin la grosse différence avec avant, c'est que le réalisateur, le producteur, etc., peuvent se rendre compte au fur et à mesure du travail de l'ensemble des sons, alors qu'il y a 10 ans, avec les méthodes traditionnelles, on ne se rendait compte finalement de l'ensemble des sons qu'au mixage, c'est-à-dire au moment où il était trop tard pour changer quelque chose. Et puis donc nous avons mixé, tout le monde était très content, très bien, faire peut-être un deuxième mixage parce qu'il y avait des petites choses à enlever. Et le distributeur a dit, je ne sors pas le film avec cette bande son. Mon public ne comprendra pas. Et pourtant, je veux dire, c'est pas du Stockhausen. Hein. Alors, je dois dire que c'est assez surprenant, mais la bande-son, ils ont gardé quelques bruits d'animaux comme ça, synchrones, et la musique en a été confiée à Jacques Lussier, c'est peut-être le nom, qui évidemment est aux antipodes de ce que je peux, du genre de travail que je fais. Bien. Alors, c'est intéressant ça, parce que ça démontre bien tout de même une sorte de dégâts. Alors, simplement, j'ai obtenu du producteur, qui est un homme charmant, que mon mixage soit préservé et que j'ai une copie d'image que je puisse présenter avec la musique, ce qui va être fait incessamment. Mais c'est très important parce que ça vous montre l'écart qu'il y a entre ce type de travail et le pouvoir des décideurs et le pouvoir des financiers. Il suffit que c'est même pas le producteur. C'est même pas le réalisateur, c'est le distributeur. Hein. Imaginez l'NMPP disant je ne veux pas de ce livre dans les kiosques. Hein. Bon, c'est fou. Hein. Le producteur, il est toujours exsangue parce qu'il a des dettes, il est dans les mains du distributeur pour payer ses traites. Donc, non, le seul qui pouvait faire quelque chose, c'était en vertu de la loi sur le droit d'auteur en France qui est unique au monde, c'était le réalisateur qui pouvait dire en France le final cut, c'est-à-dire qui lui est tout puissant, je réponds aussi à monsieur sur ce plan, pour dire oui ou non. Hein. Bon, il n'a pas cru de voir, il a eu peur en disant je ferai plus de film après, etc. Parce que c'est humain. Oui. Oui, tout à fait, oui. Ah non, ça a même régressé. Ça a même régressé. Alors, s'il y a une réponse à ça, c'est pour ça que je fais beaucoup d'enseignements maintenant, c'est par exemple l'école du cinéma, la FEBIS, qui vient de se constituer. constitué depuis 4 ans, bon, et avec qui je travaille, je dirige le département son là, et avec qui je travaille avec des futurs réalisateurs, bon, c'est-à-dire des gens qui apprennent à faire du cinéma et que j'espère peut-être changer un peu les choses à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans les travaux qu'ils font, parce qu'évidemment, j'exploite beaucoup ma doctrine personnelle, ce qui n'empêche pas qu'ils font aussi des films avec de la musique de film qu'ils choisissent. Mais enfin, je crois qu'il faut reprendre à la base et que c'est dans les jeunes qui travaillent aujourd'hui qu'on peut arriver à changer une mentalité. Mais c'est une situation effectivement difficile, mais on a des autres. Non. Ah, elle est très différente. Oh, très, très différente, moi, je trouve. Non, j'ai rien fait pour la danse. Non, j'ai rien fait pour la danse. J'ai fait deux spectacles de Jean-Louis Barrault il y a une dizaine d'années. Ça m'excite pas beaucoup, si vous voulez, dans la mesure où ce qui m'exciterait beaucoup, ce serait un peu comme le spectacle de Corman ou de Wilson, c'est-à-dire où il y aurait une possibilité de participation live au spectacle, c'est-à-dire à partir d'éléments préfabriqués, si je puis dire, de bandes lancées, etc., qui est une action et une action du spectacle sur le traitement de ces bandes, un peu comme il se passe dans la musique contemporaine aujourd'hui, dans des œuvres comme celle de Manoury, où le jeu de l'interprète agit sur le texte musical lui-même. Hein. Et alors ça me paraîtrait effectivement intéressant. Mais tout ça reste un petit peu effectivement expérimental. Vous comprenez, il faut dire que c'est qu'il s'agisse de la peinture, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse de la musique, tout ça est bien compartimenté et on peut aller très loin, on peut donner des concerts où les gens ne comprennent rien à ce qu'on joue, etc. Tout ça fait partie d'un système établi qui fait que on peut travailler, par exemple, on peut faire toutes les expériences musicalement que l'on souhaite, beaucoup plus qu'on ne le pouvait d'ailleurs quand j'avais 20 ans, hein, où il n'y avait pas de structure d'accueil. Bon. Alors que le cinéma, c'est du cirque à la base. Donc c'est de la distraction, c'est quelque chose qui est destiné à faire passer un moment, mais le cinéma n'est pas arrivé, vraiment n'a pas atteint un statut de sérieux. Sauf ce type de cinéma, une certaine époque de René, le cinéma de Duras, le cinéma de Godard. Bon, mais le dernier film de Godard, qui était une œuvre prodigieuse, est une catastrophe financière totale. Enfin, moi, je suis allé dans une salle de 700 places, on était 10, et on est resté 5, il y en a 5 qui sont partis au milieu. Donc, c'est effrayant, hein, mais c'est comme ça. Moi. Bien, je vais tout de même... même voir un petit peu ce qui nous occupe sur ce film. Alors, je voudrais peut-être vous expliquer quelque chose, enfin une notion importante dans ce problème de la partition sonore. La globalité du son, bon, c'est-à-dire finalement refuser cette hiérarchie qu'il y a entre les différents éléments sonores qui sont paroles, que ce soit commentaire ou dialogue, bruit, les bruitages, les ambiances, etc., musique, hein, dichotomie, si je puis dire, ou trichotomie, qui est tellement instaurée dans la profession depuis que le cinéma sonore existe, que dans les salles de montage, les boîtes dans lesquelles il y a ces sons sont de couleurs différentes, hein, surtout pour que bien pas mélanger les trucs. Hein, bon. Et ce qui fait d'ailleurs que l'on voit dans des films riches, c'est-à-dire américains en général, qu'il y a montage musique, montage ambiance, montage texte, etc. Tout ça est bien séparé. et il ne faut pas que quelqu'un entre dans le domaine de l'autre. Alors, oui ? Oui, alors
il y a une, presque peut-être une pensée sur la façon d'utiliser le bruit, l'ambiance, et plus du tout sur ce qu'on appelle quand même la musique.
Oui, mais alors, ça vient d'une chose facile à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de dialogue entre un réalisateur de film et un compositeur. Il n'y en a pas. La musique est une chose tout de même beaucoup plus complexe. L'ordre musical est quelque chose que les gens ne comprennent pas, d'une manière générale. Pour eux, la musique, c'est quelque chose qu'ils entendent comme ça, qui fait plaisir, qui fait du bien, qui fait pleurer, qui fait rire, etc. Bon. Mais ce que ça représente d'organisation, à la fois pour le créateur, mais aussi pour l'écoute. L'organisation de l'écoute musicale est quelque chose de haute complexité. Bon, ça, vous parlez chinois, là, les gens ne comprennent pas. Bon. Et une fois, un réalisateur, j'ai dit, vraiment, on ne comprenait rien. Écrire une mauvaise page d'orchestre, c'est 10 ans d'études. Dire moteur est coupé, n'importe qui peut le faire. Hein. Bon, j'exagérais un petit peu le propos. Bon, mais c'est un peu ça. Le cinéma, dans la plupart des cas, est un travail d'amateur. La musique est un travail de professionnel et de haute professionnalité. Bon. Donc, il y a très rarement dialogue, et c'est précisément dans cette expérience pédagogique que je fais maintenant que je vais essayer de changer un peu les choses, et que, par exemple, pour les jeunes réalisateurs qui travaillent à Fénis, il y a des cours de musique, non pas leur apprendre le solfège, encore que maintenant ils voudraient, mais de leur apprendre comment ça, en gros, comment ça fonctionne, comment l'écoute musicale fonctionne. Bon. Alors peut-être que ceux-là auront un discours. Mais sinon, la référence de la plupart des réalisateurs, c'est je voudrais quelque chose qui ressemble au 25e quatuor de Haydn, mais qui fasse un petit peu la deuxième de Mahler aussi. Bon, c'est comme ça qu'il marche, vous comprenez. C'est comme ça, comment voulez-vous qu'ils disent... alors, déjà, s'ils parlaient tempo, registre, instrumentation, couleur harmonique, enfin, je sais pas, déjà, ça donnerait des éléments plus intéressants que de prendre des espèces de clichés comme ça, existants, et c'est ce qui fait de la plupart des musiques de films, justement, une sorte de ramassis de clichés, hein. Donc c'est pour ça que Godard, lui, prend les musiques originales plutôt que de s'exprimer à expliquer à quelqu'un, ou que, par exemple, un exemple fameux qui est l'utilisation de l'adagio de la cinquième dans Visconti, dans Morabiz, et où là, cette musique a été utilisée avec un sens vraiment d'organisation musicale tout à fait remarquable. Mais effectivement, ce dialogue n'existe pas. Et par ailleurs, il y a ce phénomène, vous savez que Stravinsky méprisait beaucoup la musique de film en disant c'est le papier peint collé sur les murs nus. Bon, il méprisait le cinéma d'ailleurs par la même occasion. Et effectivement, ce côté collé à, et c'est en ça, par exemple, que ce film-là s'inscrit tout à fait contre ça. On colle à une complexité une autre complexité. Je ne parle même pas de la qualité de la musique, qu'elle soit bien, pas bonne, etc. De toute façon, il se passe 10 fois plus d'événements qu'est-ce que dis-je, 20 fois, 100 fois dans une seconde de musique, hein, que dans une seconde de plan. Donc, il y a un décrochage complet entre la densité des deux types d'informations. Et c'est ça qui crée le malaise. Alors, comment la plupart des musiciens de film se sentir? C'est en faisant référence précisément à des clichés, des schémas, hein, qui sont en général issus de l'opéra de la fin du XIXe siècle, hein, et qui sont les thèmes de la frayeur, de l'amour, etc. Bon, et qui reprennent finalement avec des orchestrations différentes que les vieux schémas. D'ailleurs, maintenant, on fait des disques même où il n'y a plus qu'à prendre selon les circonstances. Il y a un catalogue de circonstances et il y a... c'est donc bien. C'est retour à la case départ, ça, c'est sûr.
Et c'est ce que fait, alors, c'est bien fait dans ton genre, mais ça, et avec la nostalgie en plus, c'est bien comme dans les
films. Oui, c'est exact.
Il y a une certaine réflexion, on ne peut pas dire que les films soient mauvais dans les films.
Oui, mais naturellement, il y a des qualités musicales. Bon, nous regardions avec ces messieurs hier ou avant-hier, je ne sais pas, le début d'un film qui va vous être présenté, où il y a une musique de Takemitsu. On a vu juste le générique, c'est une musique superbe. Bon, moi, je n'ai pas regardé les images, j'ai écouté. Hein, je trouvais ça tout à fait beau à entendre. Bon. Donc, je crois que là, il y a un problème qui peut être résolu que si on reste dans du radical, au moins pendant un moment. Hein, je ne dis pas du tout que l'homme qui ment soit la solution à tous ces problèmes, mais il faut attaquer le problème par ce biais-là. Parce que sinon, si on reste dans un système ancien, on n'en sortira pas. Hein. Alors, je voulais justement vous indiquer un peu la base. Qui m'a servi de base pour penser ça. C'est d'ailleurs, j'ai trouvé confirmation de cela dans, je ne sais pas si c'est la structure absente ou l'œuvre ouverte de Umberto Eco, où il parle d'épaisseur sémantique variable du son, c'est-à-dire finalement le fait que ça renvoie plus ou moins à une réalité. Hein. Bon. Alors, si on considère, par exemple, ce schéma-là, et on dit que la parole, tout ce qui est texte, hein, a 100% d'épaisseur sémantique, ce qui est évident, puisque un mot renvoie immédiatement à un concept ou à un objet ou à quelque chose de connu. Bon. Et puis, au bout, là-bas, vous avez l'élément musical dont on peut dire, je pense que vous en serez tous d'accord, qu'il a une épaisseur sémantique zéro, puisque aussi bien la musique, un son musical ne renvoie à rien. Fa dièse de flûte piano ne renvoie pas ni à la chaise, ni à la bouteille, ni à rien du tout. Donc effectivement, l'épaisseur sémantique est nulle. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que la zone intermédiaire, qui va être le bruit, va pouvoir, et c'est un peu ce que j'ai tenté dans ce film, glisser d'un domaine à l'autre. Si par exemple, je suppose, on écoute un bruit d'hélicoptère qui tournoie, enfin, bon. On l'entend très bien, on reconnaît, on a tous entendu un hélicoptère, on reconnaît qu'un hélicoptère. Bon, si on manipule ce son d'une certaine façon, par filtrage par exemple, en atténuant progressivement les fréquences graves, on arrive à une sorte de, comme ça, de pépiment, vraiment de pépiment d'oiseau. Hein. C'est-à-dire que on a une zone d'une plasticité remarquable là qui fait que on va pouvoir jouer sur le sens. C'est là-dessus que joue beaucoup ce film-là, hein, dans la mesure où un son qui a été reconnu d'une certaine façon et qui va progressivement, par des moyens, surtout à l'époque électroacoustique très, très simple et très sommaire, changer d'aspect et va donner, va provoquer un autre sens alors que ce sera le même son. Bon, c'est un des intérêts de cette zone très plastique. Par ailleurs, la liaison du son à l'image, selon qu'il va être purement synchrone, bon, je pose ce verre et j'entends le bruit du verre, c'est effectivement la situation la plus simple, bon, mais je peux poser le verre et on n'entend rien, bon, c'est déjà plus complexe, il y a plusieurs exemples comme ça dans le film, ou je peux poser le verre et entendre un autre son que le verre. Et ce son autre que celui du verre peut être un son que je connais ou un son que je ne connais pas. Hein. Bon, c'est-à-dire que vous imaginez la multiplicité des possibilités de relations entre un son et une image, selon qu'il est synchrone dans le temps, qu'il est synchrone dans le sens, et qu'il est synchrone, je dirais, dans la culture de celui qui l'entend. Et à partir de ces trois registres dans lesquels c'est oui ou non, on a huit possibilités de rapport, de relation, mais ça, nous le verrons peut-être pas aujourd'hui, peut-être dans les jours qui suivent. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que si je vais dans cette direction-là, le gros intérêt, c'est aussi le cas dans ce film, c'est que l'organisation, je dirais, compositionnelle des sons non musicaux, bruit de pas, goutte d'eau, choc, divers, etc., s'épuise relativement vite. C'est, à mon sens, déclaration n'engage que moi, un des gros défauts de ce qu'on appelait à une certaine époque la musique concrète, c'est-à-dire le fait que, à un moment donné, bon, quand on a entendu un grincement de porte pendant 3 minutes, même à l'endroit, à l'envers, etc., puis il y a épuisement, hein, épuisement de ce son. Bon. Et où vient l'élément musical, c'est justement relayer le son au moment où il s'épuise. Et pourquoi il s'épuise? C'est parce que le son non musical n'est pas paramétrisable comme l'est le son musical. Bon, un son musical a une hauteur, a une durée, a un timbre, a une intensité, pour ne prendre que ces paramètres-là. Bon. Et donc, on peut très bien imaginer, alors que l'élément non musical s'épuise, d'arriver à prendre sa matière, sa substance et la traiter ou la relayer par un timbre musical qui, lui, étant paramétrisable, on rentre dans le domaine de la musique, donc on peut organiser une durée beaucoup plus importante. C'est plus ou moins réussi selon qu'on est bon ou mauvais compositeur. Bon, ça, c'est une autre affaire. Mais en tous les cas, on est dans un domaine qui est maîtrisable dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas du bruit non musical. Alors vous avez, par exemple, à deux ou trois reprises dans le film, des exemples de ça quand la pharmacienne sort de sa boutique, on entend ses pas sur le trottoir, cependant qu'on entend des gouttes d'eau qui viennent de la scène précédente, puis interviennent des pics de cordes qu'on a d'ailleurs entendu déjà dans le générique, puis un woodblock, puis un xylophone, puis etc. Et tout ça essaye d'établir cette continuité entre les deux sons, et je crois, en tous les cas, avec les moyens de l'époque, il arrive à peu près. Donc ça, c'est très important, et c'est ce qui permet, surtout dans un film comme ça, cette espèce de circulation du sens permanente, puisque là, on est sur un sens direct, bien qu'il soit perverti par le mensonge par rapport à l'image, hein, puisque quand Trintignant dit J'errais parmi une foule dense, etc., et qu'il est dans une image où on le voit dans un village vide, etc. Donc il y a déjà cette relation, soit synchrone, soit non synchrone, entre parole et image. Mais il y a surtout le fait que toute cette thématique de bruit, selon qu'elle va intervenir à certains moments et dans certaines conditions, va également, elle, soit provoquer un sens nouveau, soit détourner le sens que l'on voit ou que l'on entend. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est ce fil. Bien. Je voulais dire autre chose aussi. Oui, alors, naturellement, la rigueur, puisqu'en fait, il s'agit d'un travail qui se veut rigoureux, fait que, dans la plupart des cas, certainement 90% des cas, cette thématique de bruit, qui va être entendue souvent en tant que prémonition, puis après en tant que mémoire, se trouve toujours, à un certain moment, ancré à l'image, c'est-à-dire ancré dans le film. L'arbitraire, ne restant que dans des éléments musicaux extérieurs, finalement, parce que, mais je considère que c'est une faiblesse, parce que n'ayant pas réussi à s'intégrer suffisamment à mon gré à l'univers des bruits, mais... En principe, tout bruit trouve toujours son ancrage. Et je pense que c'est une chose importante, parce que ça permet d'abord de travailler avec un matériel très réduit, et je suis de ceux qui pensent que plus le matériel est réduit, plus l'organisation nécessite d'être, au contraire, très, très, très dense et très complexe. Et en plus de ça, ça... permet une sorte de reconnaissance, c'est-à-dire s'il y avait, je crois qu'il y a une vingtaine à peu près de sons vraiment thématiques, s'il y en avait beaucoup plus, on aurait plus cette possibilité de balisage du récit, c'est-à-dire de renvoi à une situation antérieure dont j'ai un petit peu parlé hier. Donc il faut rester relativement avec peu d'éléments. Bon, je crois que comme il me reste 5 minutes, que je ne vais pas commencer, on attaquera le film demain. Je voulais revenir peut-être sur cette notion de son chimérique que j'ai exposée très brièvement, mais maintenant que vous avez entendu le film, ça vous dira probablement plus... Vous êtes gêné, monsieur, peut-être par chimérique, non? Voilà, ah, c'est ça. Vous savez, une chimère, c'est quelque chose qui est... Oui, vous savez ce que c'est qu'une chimère? Vous savez ce que c'est qu'une chimère? Pardon. Comment pourrait-on expliquer ça? C'est une création de la biologie, oui, effectivement. Par exemple des animaux, un animal qui a un corps de lion, une tête de femme et des pieds de chèvre, par exemple, bon, est un animal chimérique. Hein, c'est quelque chose de oui, mais c'est dans le, là il est effectivement hybride, mais chimérique dans le sens de oui. Voilà, mais qui n'est pas chimérique, parce qu'il existe réellement. Il y a dans la notion de chimère quelque chose qui est d'imaginaire, oui. De légendaire aussi, si vous voulez. Bon. Alors, maintenant, vous savez, je dis ça pour les compositeurs en particulier, que les informaticiens, musiciens américains, en particulier John Shawnix, vous connaissez sûrement le nom, il a fait ça il y a... déjà combien, 15 ans, hein, Charlie. Pardon? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on part d'un piste de contrebasse pour arriver à un son filé de flûte dans l'aigu en 50 ou 60 steps, comme ça, et on n'entend pas la différence entre deux steps voisins, et puis tout d'un coup, on est... Bon. Alors, là, naturellement, à cette époque-là, il n'y avait rien de semblable en 67, mais j'avais donc essayé de fabriquer des sons chimériques, donc à tête de cheval, corps, etc. Et maintenant, je peux vous en parler, vous avez vu le film, en particulier des sons finalement dont bon, un son en gros c'est une attaque, hein, un entretien et puis une chute. Bon, alors si on décompose ce son dans ces trois, très simplifié parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin on peut donc imaginer qu'on va avoir une attaque d'un certain ordre, un entretien d'un autre ordre et puis une chute d'un autre. Bon, je dirais d'ailleurs plutôt, je reprendrai le terme de l'accentuation musicale, je dirais plutôt que chute, plutôt désinence. Hein, ça serait plutôt la désinence du son pour moi. Bon, et donc vous avez pu voir que par exemple une fermeture de porte, qui est donc l'attaque, hein, qui plam, bon, va avoir une résonance de cloche comme entretien un petit bruit, par exemple, comme des vidanges. Bon. Alors tout ça, c'était très compliqué à faire parce qu'il fallait mettre ça sur trois bandes, hein, qui soient synchrones. Et donc, il y avait l'image, il y avait la bande d'image là. Et on mettait l'attaque là, donc prenez ça. Bon. La cloche dont on ne pouvait pas supprimer l'attaque, parce que si vous supprimez l'attaque, au moment où le son va commencer, ça fera attaque, comme vous savez. Bon. La cloche, je la mettais là, et puis au mixage, je remontais brusquement le son pour que ça ait l'air d'être la résonance, et puis le troisième son, par exemple, ici. Bon. Alors vous imaginez, à chaque fois, faire ce que ça représentait. Mais ça donne, par exemple, dans l'entrée au château de Trintignant, vous savez, quand il ouvre ses portes, justement des sons dont on ne sait plus tellement si c'est des ouvertures de portes ou des phénomènes musicaux. En fait, c'est l'un et l'autre. Hein. Bien. Il y a beaucoup de travail au mixage, oui, parce qu'il y a vraiment des sons... Maintenant, on peut faire ça d'une façon tout à fait différente et beaucoup plus rapide, mais à cette époque-là, c'était tout le travail qui se faisait au mixage. Vous voulez l'employer ? Oh, je pense qu'on devait sûrement travailler dans ce sens-là, oui sûrement, oui. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant de faire ça avec les appareils de montage sur disque dur ou même des multipistes. C'est beaucoup plus facile. Hein, mais à ce moment-là, c'était... Bien, eh bien, écoutez, malheureusement, l'heure est venue où je dois respecter l'horaire. Et donc, nous nous revoyons... Ah, c'est 45. Alors attendez, bougez pas. Non, on m'avait dit midi et demi, mais je sais pas pourquoi. On m'a dit midi et demi. Ah non, 45, ben, c'est très bien. Ah oui, vous avez raison. Bon, alors, je voudrais que vous nous lanciez donc la première à 4:40.
I'm
Donc, nous avons eu ce très long générique avec le tout début, les 5 premiers cartons principaux où il y a une espèce d'encapsulage, de condensé, parfois les uns sur les autres d'ailleurs, des éléments sonores musicaux ou non musicaux. Puis après, cette grande plage, comme c'était une. Il y a toujours des nécessités dans les films. Comme c'était une nécessité là, de coproduction, il fallait mettre les noms de tous les gens, à la fois français, tchèques, etc. Donc ça faisait un énorme générique. Et c'est pour ça que Rob Grier a inventé cette espèce de poursuite qui est complètement absurde, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est le débarquement américain en 40, en 44 pour ce malheureux type qui.
Oui.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui. Au pied de la messe, comme on dit. Oui, bien sûr. Oui. Oui, c'est sûr, effectivement, ça peut donner ça. Mais vous conviendrez, monsieur, que cette poursuite est complètement absurde, parce que ce type serait mort depuis déjà 20 minutes avec ce déchaînement de force. Bon. Et alors que, effectivement, comme il fallait qu'il y ait tous ces noms, Rob Grier a inventé ce dispositif qui est d'ailleurs fort bien monté et extrêmement intéressant du point de vue même de l'absurdité. Pardon ? Le mensonge commence là, voilà, exactement. Ah oui, c'est très fort comme montage, hein, tout à fait. Oui, mais enfin, la dernière image, quand il tombe par terre. Oui ? Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait bien perçu la forme générale du film, car c'est des poupées russes. C'est-à-dire que c'est un système de parenthèses, comme ça, c'est de premier début, deuxième début, troisième début, auquel intervient à la fin, une première fin, deuxième fin, troisième fin, et finalement tout ça se boucle dans un grand cercle. Alors, donc, on a eu. C'est une espèce de déchaînement sonore. Et commence cette partie-là un exposé thématique extrêmement discret, extrêmement fin, qui va se glisser, si je puis dire, dans le texte, dans le dialogue, c'est-à-dire qui est effectivement monté à l'intérieur. Des phrases, des scansions de phrases, parfois entre deux mots, comme un exposé systématique du matériau qu'on va avoir à travailler par la suite. Et également, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce film, il n'y a pas d'ambiance, comme il est convenu d'appeler les ambiances, vous savez, ambiance rue, ambiance campagne, ambiance, etc. Il n'y a absolument aucune ambiance. Et c'est un point extrêmement important parce que si par exemple le film avait été tourné avec une caméra sonore et qu'on ait gardé le son direct, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les textes tels qu'ils sont enregistrés au moment du tournage, il y aurait eu toujours un fond. Bon, si par exemple on fait une prise de vue ici, qu'on enregistre les intervenants ou moi-même, bon. On aura un fond, hein, bon, même qui ne gênera pas la parole, mais qui existera. Bon. Un fait de l'exemplarité de ce film est que précisément tout le son était à construire et que donc je n'étais pas gêné par un fond. Il n'y a pas un son là que je n'ai pas voulu, puisqu'on m'a livré une bande muette. Hein. Ce n'est pas le cas de tous les films. Non, avec la parole, mais post-synchronisée, c'est-à-dire une parole refaite en studio sur un fond de silence. Et ce problème ce problème de la figure et du fond en matière audiovisuelle et surtout en monophonie, puisque c'est un film monophonique, est d'une importance capitale. Parce que dès que vous avez trois sons ensemble, vous n'entendez plus rien. En tous les cas, vous n'identifiez et plus rien, ça commence à faire une bouillie. Alors donc, c'est pour ça que c'est finalement beaucoup plus un montage de succession, de façon à ce, l'un après l'autre, hein, de façon à ce que tout soit perçu. En stéréophonie, comme vous le verrez par exemple dans La griffe et la dent, on a beaucoup plus de liberté parce qu'il y a des espèces de phénomènes de profondeur, qui pas tellement de droite-gauche, mais de plans sonores comme ça qui nous distinguent, et on peut travailler beaucoup, on peut ajouter beaucoup d'instruments. Là, on peut faire que de la musique de chambre. Oui. Ah bah forcément. Ah oui, forcément. Oui. En général, au mixage, on est deux. C'est-à-dire, il y a un ingénieur du son de l'auditorium, et puis moi, et on se répartit les choses. Mais oui, bien sûr, la parole doit être... Simplement, le montage sonore, lui, est fait en fonction de la parole. Il faut donc que la parole soit montée. Alors, je vais parler de cette question d'ambiance parce que vous remarquerez, là où nous allons reprendre, que quand il tombe par terre, il tombe dans le silence. Enfin, après ce gros bruit, pof, il y a silence. Bon. Puis, il va y avoir le bruit des feuilles, hein, qui est d'ailleurs de la pellicule magnétique agitée, comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu des séances de bruitage, mais c'est toujours très drôle, parce que ce n'est pas du tout les instruments que l'on croit qui font les bruits que l'on entend. Puis, une ambiance forêt volontairement presque caricaturale, si vous voulez, très, très cliché, puis lui qui commence à parler. Et quand il commence à parler, il n'y a plus d'ambiance du tout, de façon à laisser la place aux motifs de bruit qui vont intervenir. Dans le générique ou après? Ah, il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup d'eau. Je ne sais pas si je suis arrivé à la maîtrise de Tarkovsky dans le maniement de l'eau, mais... Oui, c'est oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. C'est quand il est, avant qu'il soit penché sur le ruisseau, on voit trois plans différents, avec donc, là c'était un filtre très ordinaire que j'avais à l'époque, mais pour bien différencier les couleurs. Oui. Oui. Alors, on va essayer de se voir ça tout de même. Il va parler. Premier élément thématique qui est ces bruits d'un couloir ou je ne sais pas quoi qui sont liés à la notion de carcération, de danger, de police, etc. Je signalerai au passage que je vais m'arrêter tout le temps, hein, comme ça, j'espère que ça ne vous est pas désagréable, mais sinon, on ne peut pas faire autrement. Je me suis aperçu a posteriori que en général, les sons ponctuels, comme ça, c'est-à-dire des chocs, bruit de pas ou bruit de percussion isolés ou choses comme ça, étaient toujours liés, je ne sais pas pourquoi, à des verticalités. Quand j'ai placé ce son-là, bon, je l'ai placé parce que je vais m'en servir après dans d'autres circonstances, donc je veux l'exposer maintenant. Mais pourquoi est-ce que je l'ai mis sur des verticales, comme ça, et j'ai remarqué ça plusieurs fois dans le film. C'est pas comme s'il y avait une espèce de coordination entre l'œil et l'oreille sur le vertical et le fonctionnel. Donc plus d'ambiance forêt là. Hein. Si, ça revient dans le petit après qu'elle s'arrête. Avec le bruit d'eau.
Mon nom est Robin.
Bon, alors là, vous voyez, bon, il y a ce thème de l'eau qui reviendra beaucoup, bon, qui est accroché à l'image là, puisque on l'entend avant, si vous voulez, mais l'image arrive. Il y a ce premier effet de variation de timbre. Sur l'eau et le pivert qui va annoncer juste le discours qui vient après donne naissance à ce petit motif très simple de woodblock parce que entre tac 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 et tac 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 il y a tout de même une liaison de matière et il y a cette espèce de petit très court développement donc de ces trois matériaux avant que commence à prendre la parole. Cette parole, d'ailleurs, c'est une autre dimension dans le traitement, une dimension plutôt qui se rapproche de l'opéra. C'est-à-dire que, en fait, il y a des moments de plus compositionnels que d'autres et des moments de récitatif. Le texte qui va suivre. Est un récitatif, c'est l'histoire qui commence à raconter, mais au lieu qu'il y ait des accords comme ça, il y a des ponctuations par des sons thématiques. Hein, ça c'est, et alors il y a ça d'une part, et d'autre part, ça alterne avec au contraire des moments de, avec ces trames un peu longues, horizontales comme ça, qui représenteraient en quelque sorte le caractère plus symphonique par rapport au récitatif dans un opéra.
Je vais vous raconter mon histoire. Ou du moins, je vais essayer. Voilà. Ça a commencé dans une forêt.
Alors, voyez-vous, quand il dit « je vais vous raconter mon histoire », dans d'autres moments du film où il dit ça, on a le pivert. Bon. Et là, le pivert, est, qu'on a déjà entendu deux fois avant comme annonce, est remplacé par ce premier plan des filles jouant dans la cour du château, c'est-à-dire que déjà on a un temps télescopé puisqu'à l'intérieur de ce discours intervient la scène qu'on verra bien après de Colin Maillard, donc on est déjà dans deux espaces différents au même moment et le rythme dans lequel vient s'inscrire ce premier plan qui n'a pas de rapport direct avec l'image qu'on vient de voir, se fait dans la même relation que le son du pivert par rapport au discours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire une sorte de coupons ce plan-là, remplaçant-le par le pivert, ça donnera quasiment le même résultat du point de vue de la perception audiovisuelle.
Oui. Il y avait une sorte de sentier, un peu incertain. Auparavant, il y avait eu un ruisseau, une pierre dans l'eau courante, des branches mortes. Mais non, c'était plutôt une prairie. Une grande prairie sans clôture avec des graines de chardon.
Alors, vous voyez, là, on commence à apercevoir le système où... les sons, c'est un peu comme s'il entendait ce son-là et dit, mais non, Et donc ça introduit un sens nouveau du fait d'intercaler ce son-là. Alors que s'il y avait une ambiance normale, tu dis mais non, bon, bah, c'est une continuité dans sa pensée. Là, tout d'un coup, c'est le son qui lui fait dire mais non. Et ça, c'est un procédé qui sera repris beaucoup, en particulier dans la scène que j'évoquais tout à l'heure, avant la scène du puits. Bon, là, je crois que je vais me faire discuter. Hein. Il est 10h10. Voilà, enfin, nous continuons demain. Et je vous remercie de votre attention.